la subversion comique. Arnaud Contreras, Assia Khalid.
Ah, je comprends pourquoi ça marche pas.
Oui, de l'autre côté.
Philippe ? Philippe ? Dans ma famille, on est toujours à l'heure, hein. C'est la politesse des rois.
Et donc,
il va falloir partir à l'heure, hein, si c'est possible.
Les hommes devant !
Les femmes derrière ! Les hommes devant ! Les femmes derrière !
Fred Touche, est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de Manif de droite ?
C'est un peu compliqué, c'était une idée justement de Laurent Petit au départ qui disait qu'il faudrait qu'il y ait des artistes qui soient à droite, qu'il faudrait créer un club d'artistes de droite. Et donc j'avais trouvé l'idée intéressante et quand il y a eu le deuxième tour Le Pen-Chirac, c'est ça, on s'est retrouvés avec l'équipe des 26 000 couverts, avec Philippe Nicole, et on a eu l'idée de créer des partis de droite. On en a fait plusieurs pour que ce soit un peu compliqué. Il y avait Jeune France Rue, le CARD, le club des artistes de rue de droite, plusieurs choses comme ça, et on a balancé des messages sur Internet.
S'accorde.
Puis à un moment, on s'est mis à 4-5 autour des banderoles, avec la police évidemment, pour qu'elle nous protège, et on a commencé à manifester. Et puis on faisait pas les fiers, hein. Au départ, on n'avait pas de slogan, et c'est venu en improvisant, en faisant le chemin. Alors, la première chose qu'on a vue, la police était avec nous, on a commencé à crier la police avec nous. Après, ça s'est mis en route très facilement, tout le monde est venu apporter son grain de sel, et puis voilà. C'était spectaculaire avant tout, donc il y avait une organisation qui a très bien fait les 26 000 couverts avec Philippe, ils ont très bien très cadré le mouvement, c'est ce qu'il fallait. Il y avait d'abord les SDF, les skins de France, ensuite il y avait les flûtes à bec, ensuite il y avait des canonniers, des gens qui étaient habillés en napoléonien, qui tiraient des canons, après il y avait des costumes médiévaux, il y avait tout ça a été organisé. De manière très belle.
Par exemple, dans les manifs de droite, tout à coup, on est dans une lutte sociale en 2003 pour la lutte pour le statut d'intermittent du spectacle. Se traduit par des AG, la CGT, des manifs, quelque chose d'assez mortifère, la culture est morte, etc. Tout ça. Nous, il y a un moment donné, ça explose. Enfin voilà, on a besoin d'exprimer les choses autrement, et donc du coup, ça répond à une urgence de s'emparer de quelque chose qui nous touche, mais dans lequel on se retrouve pas dans la manière de lutter, et puis voilà, besoin de faire les choses autrement.
Depuis quelques années, d'étranges convois parcourent la France. Des individus s'immiscent dans notre quotidien. Ils sont comiques, musiciens, philosophes, architectes, urbanistes. Sous différentes formes, ils cherchent à repolitiser notre pays par le rire et la réflexion. Ils créent des spectacles, expositions, conférences-débats et défendent l'idée d'une éducation populaire du porte-à-porte. Fabienne Kemener, Fred Touche et Laurent Petit sont les figures phares de ce mouvement. Entourés d'artistes, de chercheurs et de personnalités décalées, ils créent des fausses manifs de droite, des cabarets philosophiques, des rendez-vous de la cervelle, une mission Socrate ou encore une agence nationale de psychanalyse urbaine, la NPU. Autant d'actions de terrain qui interrogent le rapport des Français à leur ville et aux politiques qui les administrent. Autant de rencontres qui poussent nos concitoyens à utiliser le second degré, le pas de côté, pour s'investir dans la vie de la cité.
C'est-à-dire qu'on essaie de transpercer, transcender, non, trans quelque chose, transporter peut-être, ou transborder les codes. C'est-à-dire qu'on essaie de déplacer les cases. Par exemple, entre gauche, droite, pour les manifs, par exemple, c'est de mélanger un peu les choses. C'est-à-dire des artistes de gauche qui disent des choses de droite. Et ce qui m'intéresse, c'est la qualité du rire. J'essaie de trouver un rire qui défoule. C'est-à-dire que ce que j'aime bien sentir dans le rire qu'on procure, c'est une sorte de poids. Ah oui, d'accord, ils osent aller sur ce terrain-là. Un rire libérateur et un rire qui fait du bien. Et chaque fois, avec ce rire, avec cette façon d'aborder les choses et de les déconstruire, c'est d'avoir le mot avec trans dedans, mais je ne sais pas quoi.
Exutoire, catharsis, ouais, il y a des choses de ça, beaucoup. Embarquer tout le monde là-dedans, pas laisser les gens sur le bord de la route. Des fois, il y a des artistes qui manipulent le second degré, etc., puisqu'on est toujours un peu dans le faux vrai, mais qu'on n'a pas cette générosité-là, forcément, d'embarquer les gens dans cet humour-là.
Oui, c'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est que même dans les spectacles qu'on fait ou dans tous les événements qu'on fait, là, on a fait dernièrement un événement au bord de la Sioule, le plus important, c'est de donner les codes aux gens. C'est-à-dire que ça peut être de l'humour décalé, ça peut être du deuxième, troisième degré. Tout le monde est capable de faire ça. Tout le monde est capable d'avoir cet humour-là. Il suffit juste de donner les codes, de dire voilà, c'est ça. Et de le faire assez habilement. C'est là que le côté du métier intervient. Mais une fois que les gens se sont emparés de la chose, qu'ils ont compris le mécanisme et qu'ils sont dedans, c'est open. Open.
C'est open data.
Open data.
Perturber, bousculer, faire rire, toujours décalé, toujours avec l'intention de mêler politique et poésie. Les subversifs ne se reconnaissent pas dans le verbe subvertir, ils y préfèrent le mot saper. Saper les repères confortables pour qu'ils s'effondrent un jour sans prévenir et user du second degré. Il fait froid, l'Agence nationale de psychanalyse urbaine s'est réfugiée dans un café turc en région parisienne. Après Saint-Brieuc, Mons, Alger, Hénin-Beaumont, il démarre une nouvelle enquête au thème très sérieux. Comment réconcilier Drancy avec ses trains ?
Alors bonjour, bienvenue à l'Agence nationale de psychanalyse urbaine. Merci d'être venu renforcer l'équipe en tant que psychanalyste en herbe pour cette première opération Divan dans l'espace public à Drancy, devant la gare. Donc là, nous allons donc poser un questionnaire poétique aux habitants, aux passants, aux gens qui arrivent donc par la gare, dans une approche plutôt conviviale et accueillante. Et pour donc les inciter à venir s'asseoir dans nos transats et passer un petit temps avec nous.
Alors l'opération Divan, elle a pour but de cerner la personnalité de la ville au travers de la parole des habitants. Le questionnaire, vous allez le voir, il est assez métaphorique. Il a pour but de dégager de l'image. Le jeu est vraiment qui révèle un sentiment de tendresse qu'ils peuvent avoir et d'ambivalence qu'ils peuvent avoir par rapport à leur ville. Très important, on est une agence indépendante. On est tous psychanalystes, entre nous on s'appelle chers collègues, on va passer la blouse, à partir du moment où on passe la blouse, on devient psychanalyste urbain, on se vouvoie, on s'appelle chers confrères.
Il fait froid aujourd'hui, donc du coup les gens vont peut-être avoir du mal à s'asseoir dans les transats. Moi j'y tiens à ça, parce qu'on n'est pas en train de faire un questionnaire sur les shampoings à l'arrache dans une rue commerçante, c'est vraiment un moment où les gens, il faut qu'ils prennent le temps, et le fait de s'allonger dans un transat, déjà, joue dans la mise en état des gens pour répondre à ces questions. Si la ville de Drancy avait un ennemi,
c'est pas rentrer dans le monde politique.
Enfin, vous pouvez si vous voulez, hein, si vous avez envie de répondre.
La gauche.
D'accord. Donc vous avez dit une qualité, la droite, et maintenant l'ennemi, c'est la gauche. Si jamais vous en avez un autre qui vous vient, peut-être un petit peu plus lié à la ville, à son histoire, on laisse faire, on pourra revenir. De quelle étrange maladie souffre ou souffrirait la ville de Drancy ?
Des étrangers.
D'accord. Qu'est-ce qui ferait plaisir à Drancy pour son anniversaire ?
La rénovation de la gare, enfin près de la gare.
Au niveau sécurité aussi, surtout.
Parce qu'il y a beaucoup de noyaux, on va dire. Beaucoup de pépins. Toute la merde qu'il y a dans tous les quartiers.
Et si la ville de Drancy était un animal ?
Un lion.
Pourquoi donc ?
Parce que les gens sont de plus en plus sauvages.
Messieurs, bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Mes collègues ou moi allons venir vous voir. Et alors maintenant, je vais vous demander de me dessiner Drancy, s'il vous plaît.
Ah, tu viens m'aider à dessiner Drancy parce que je sais pas comment faire. Non, mais dis-moi comment je pourrais le dessiner, parce que je sais pas.
Darvalo, moi j'attends mon tour, ça c'est ton truc. Moi j'attends mon tour.
Donc à votre avis, si la vigne de Drancy était un fruit ou un légume ?
Eh ben un piment.
C'est marrant ça, pourquoi ?
Parce que des fois, on n'est pas à notre place, comme le piment dans certains plats.
Bonjour, est-ce que vous auriez un petit temps à nous accorder ? Bonjour madame. Bonjour madame, est-ce que vous auriez un petit temps à nous accorder ?
Non.
Non, c'est pour... Bon. Walkman, je laisse tomber. Ça part mal. Souvent, on fait ça sur le marché et les gens sont plutôt détendus, c'est le week-end. Là, ils sortent du travail, ils sont un peu... Bonjour madame, est-ce que vous auriez un petit temps à m'accorder pour répondre à un questionnaire poétique sur la ville de Drancy ? La qualité, la droite, l'ennemi, la gauche, le père fondateur Jean-Marie Le Pen, les ennemis, les étrangers... Vous voulez être interviewé ? Bon. Mais par contre, c'est pas entre quoi quand vous venez tout seul avec moi. Super. Ah zut, j'ai pas de chaise.
Alors,
asseyez-vous, je vais chercher une chaise.
Comme lui, là, il dessine n'importe quoi.
Merci. Ah non, vous, c'est le transat. Alors, si la ville de Drancy était un fruit ou un légume ?
Ouais. Je dirais un légume.
Ouais. Un légume. Et lequel ?
Je sais pas, un brocoli.
Et pourquoi un brocoli ?
Je sais pas, parce que la ville, elle est amère.
Bah, comme ça, moi, ce qui me vient, c'est le passage des trains nucléaires.
Donc, son gros défaut humain, comment vous le traduiriez
Bah, sali par les déchets industriels.
Quand vous discutez avec des personnes qui ne partagent pas vos opinions, qu'elles soient de droite, d'extrême droite, ou de gauche, d'extrême gauche, est-ce que vous avez la volonté de convaincre ?
Moi, je commence par me battre d'abord. je sors les poings et... Non, il n'y a pas du tout de volonté de convaincre, pas du tout. Non, moi j'aime bien discuter, j'aime bien avoir le... J'y vais vraiment comme un candidat, c'est-à-dire que je vais vraiment écouter les arguments qui sont donnés. Et puis si j'en ai pas, j'en donne pas.
Mais pourquoi est-ce que vous choisissez d'aller à Hénin-Beaumont, par exemple ?
On n'a pas choisi, on nous a appelés. On ne choisit jamais la psychanalyse urbaine, on nous choisit. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné quelqu'un qui a décidé que c'était bien qu'on soit là. Je ne dis pas que c'était une partie de plaisir, hein. C'était pas facile d'entendre certaines paroles, c'est assez dur de récolter ce type de paroles-là. Mais évidemment que le choix de nous mettre là et tout d'un coup de confronter la politique ultra-spectacle avec des espaces de parole, de dialogue et de discussion, ça, c'est pas convaincre, mais c'est montrer autre chose. D'autres façons de faire et de penser. Voilà. C'était ça que j'avais trouvé subversif à Hénin-Beaumont. C'était le matin dans le journal, il y avait une pleine page sur Marine Le Pen, une pleine page sur la NPU, comme si le match était posé dès le départ dans la presse. Et finalement, au final, ça donnait d'un côté... une femme qui fait des embrassades, se fait filmer, se fait prendre en photo, et d'un autre côté, des gens qui discutent, qui sont juste un espace de parole, tout simplement. Moi, j'ai l'impression que montrer ça, c'est subversif, oui. J'ai l'impression que ça raconte vraiment quelque chose sur l'état aussi de notre politique spectacle, et que du coup, d'opposer un vrai moment de profondeur, de recherche de sens et de dialogue à un moment de superficialité et d'efficacité politique, oui, je pense sincèrement, oui, qu'il y a quelque chose de subversif là-dedans.
Sur la NPU, la frontière est très ténue entre l'action culturelle proposée par la mairie et vous, votre perturbation. Le fait que vous débarquiez dans une ville et vous perturbiez. La mairie pourrait le faire.
Ah non, la mairie pourrait pas le faire. Ah non. Justement, alors nous, particulièrement, il est intéressant pour nous quand on a une interface avec les mairies, parce que les mairies ne savent pas vraiment travailler ça, c'est compliqué. C'est-à-dire que ils peuvent s'en emparer comme un outil de relations publiques, mais là plutôt les théâtres, ou aussi les élus, etc., peuvent s'en emparer surtout sur les opérations d'Ivan, ou faire remonter la parole des habitants. Mais par contre, après, dans la vision, la proposition, les utopies, les choses qui sont proposées, le regard qui est proposé, là, ils ne peuvent pas le faire. Enfin, je veux dire, là, c'est un regard. L'écriture de Laurent Petit et Charles Altorfer, c'est une écriture artistique. Donc, ça, c'est leur cerveau, c'est leur moulinette, et ça, ils ne peuvent pas le faire.
Et comment est-ce que les mairies peuvent utiliser cela ?
Elles peuvent utiliser ça comme un endroit peut-être décongestionner des endroits. C'est vrai que c'est le rôle du bouffon. On va pouvoir parler de choses qui, dans la bouche d'un élu, va gêner et dites dans la parole d'un artiste, va être... Enfin, d'un artiste, d'un conférencier, va être perçu autrement. Ça peut permettre d'aborder des sujets un peu délicats, un peu pointilleux ou un peu tendus. Donc ça, j'espère que ça leur sert, puisque c'est un peu notre matériau aussi, hein, d'aller travailler les endroits, les petites zones d'ombre ou compliquées de l'histoire et du paysage d'une ville.
Coucher une ville sur le divan, c'est aussi perturber le quotidien de ses services administratifs. L'Agence nationale de psychanalyse urbaine fouine dans les archives municipales. Elle surligne les traumatismes comme les joies du passé. À Drancy comme ailleurs, il faut remonter loin. Autant des modes médiévales, comme autant des premiers industriels qui ont façonné le paysage, l'orientation de la ville. Laurent Petit, psychanalyste urbain, et son collègue Charles Hartofer, urbaniste enchanteur, déplient les plans, les cartes, dans un service de la mairie.
J'ai comme le sentiment. j'ai l'impression que. Pas forcément directement la gare de triage, mais que la question du transport, de manière globale, est vraiment le cœur de la névrose ici. Ouais. C'est pour ça on le dit en souriant, mais aujourd'hui, l'histoire de la gare de triage, moi je peux pas m'empêcher de rigoler en voyant que le périmètre de sécurité s'arrête à l'endroit où on veut faire un hub de transport pour le Grand Paris. Ce que vous racontiez tout à l'heure, avec on aimerait bien que le métro vienne jusque chez nous, le métro, le tram ou le téléphérique, je ne sais pas, mais la difficulté de circuler à pied dans la ville. Je sens que c'est moins une question de densification, de qualité de vie qui a l'air d'être là qu'une question de transport qu'il faut résoudre. Mais c'est vraiment une sensation première.
Vous êtes payé par la mairie ?
Comment on dit ? Par le contribuable ? En partie, en tout cas.
C'est-à-dire que là, en l'occurrence, on est invité par la mairie de Drancy via la médiathèque. C'est eux les commanditaires. C'est la médiathèque de Drancy qui a déclenché le projet.
La médiathèque de la communauté d'agglomération. Ouais.
Donc il faut qu'on parle un peu du Bourget et de la troisième ville qui s'appelle ?
Duny.
Et comment est-ce que ça se passe avec le bailleur de fonds ? Vous pouvez quand même dire du mal ?
On n'est pas là pour dire du mal. On est là en tant que thérapeute, plutôt pour faire du bien. Donc, on est vraiment attentif
à faire en sorte que le patient se porte mieux à la sortie que moins bien. Donc, c'est en tout cas pas dans cette logique de droit ou pas droit de dire du mal, droit de dire les choses. Systématiquement avec un esprit de bienveillance.
L'objectif, c'est au final de proposer à la ville des traitements, des aménagements dont vous allez pouvoir vous saisir.
Oui. Alors, le traitement, je ne suis pas très médicament. J'espère qu'ils ne seront pas trop violents.
Dans la thérapie douce, il n'y a pas de problème.
D'accord. Ouais.
Mais traitement long, à l'échelle d'une ville. C'est long.
Ce qu'il faut. Ouais.
Une cinquantaine d'années, ça ira mieux.
Ah, quand même. Je ne sais pas si je serai encore là, mais...
Est-ce que ce n'est pas un pari pour un homme ou une femme politique de vous engager pour faire la psychanalyse de sa ville?
Non, c'est plutôt une preuve de bonne santé, parce que c'est des gens qui s'offrent ce luxe, et aussi ils s'offrent cette liberté de pouvoir répondre à une forme de portrait de ville qu'on va dresser, et qui peut être un portrait un peu critique. Certaines fois, les gens sont un peu crispés, pas forcément le pouvoir en place, parce qu'ils ne semblent pas trop inquiets, mais les organisateurs, les conseillers aussi du roi ou du maire, ils sont un peu tendus, crispés, mais souvent le maire ou le roi en question n'est pas du tout crispé. C'est quand même une forme de bouffonnerie à l'ancienne, c'est-à-dire que le roi invite le bouffon pour qu'il regarde un peu ce qui ne va pas bien autour de lui, et qui propose des solutions, mais un bouffon bienveillant, thérapeute. Donc on ne va pas essayer de blesser les gens ou les hommes politiques en place, comme ça se pratique dans les médias. Est-ce qu'il y a un effet dévastateur à long terme, parce que ça décrédibilise la démocratie, et puis ça encourage le populisme? Nous, on n'est pas du tout là-dedans. On a plutôt envie d'inviter le citoyen à reprendre ses responsabilités, plutôt qu'à être plaintif ou aigri.
Puis au travers de la pratique, c'est peut-être une pirouette, mais il y a quelque chose qui nous permet d'échapper à ces difficultés. C'est qu'on considère le territoire comme une personne à part entière. Donc s'il y a faute quelque part, c'est la faute du territoire et de son inconscient. Finalement, personne ne se sent jamais visé. Donc on a aussi cette liberté de pouvoir parfois être critique par rapport à une ville. C'est la faute de la ville. Voilà. C'est qui la ville? Pourquoi? Je sais pas. Mais ce n'est que la faute de la ville. Des milliers d'ados en crise identitaire, en perte de confiance sans aucun repère. Fugueuse de 13 ans en quête de sensations, éducateur pour répondre à tes questions. Des centres de formation pour les DJs, musique techno et drogue pour t'évader. Une culture en marche pour te démarquer, quelques grammes d'héros pour te réchauffer. Un regard neuf sur la société, sur la sexualité. Quelle solution au problème des jeunes d'aujourd'hui? Locaux municipaux pour concerts gratuits, ateliers bio animés par des hippies. Des anciens toxicos animent des débats, des maisons titres font du bénévolat. Des cours de judo gratuits dans ton quartier, dans ton hôpital, le dernier lavillier.
Moi, j'avais une pratique de comique, j'allais dire de comique troupier, de showman, à faire des spectacles comiques. Et bon, ça c'est intéressant pour l'ego d'avoir un public qui vous regarde, etc. Mais on avait l'impression, je souffrais de ne pas avoir d'impact vraiment sur la vie civique, la vie citoyenne, la vie politique. Que c'était le fait de faire un spectacle, ça servait à rien, sauf à ce que les gens passent un bon moment. Que c'était comme du divertissement, un processus de consommation, un de plus.
Moi, je suis architecte de formation. Donc, j'ai appris à l'école, j'ai appris quoi? J'ai appris un langage qui n'est utilisé que par des ultra spécialistes pour faire leur sauce entre eux, et la population est complètement privée de ces réflexions-là. Comme si tout à coup la ville n'appartenait à plus personne, sauf aux spécialistes qui connaissent ce langage. Donc là, à l'ANPU, on essaye de s'en amuser et de montrer que ça peut, parce qu'on s'en amuse, ça peut concerner tout le monde. Donc chacun peut se réapproprier ces questions-là et donc avoir son avis et donner éventuellement son avis.
Le fait d'être mandaté dans vos différents projets par des institutions, par des conseils généraux, régionaux, des mairies, est-ce que ce n'est pas un frein à l'action politique, à l'action socio-cul ?
Alors là, au contraire, parce que dans ce qu'on fait, le processus est autant important que le résultat. Et c'est-à-dire qu'on va toujours se frotter à des endroits avec l'institution où rien que le fait de fabriquer ça avec eux déjà est quelque chose qui peut faire bouger un petit peu les lignes. Même si c'est une contrainte, c'est une richesse parce que ce processus-là, pour moi, crée quelque chose.
Fred Touche, est-ce que les politiques achètent leur catharsis avec les actions qu'ils vous...
Ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire qu'ils achètent leur âme ?
Leur paix sociale.
Je ne sais pas. Je pense qu'on doit les aider, mais on les déstabilise souvent. Donc je ne pense pas que si c'est un calcul, c'est un mauvais calcul. Parce que de toute façon, moi je vois ce qu'ils attendent et je ferai en sorte pour que ce ne soit pas ça. Donc si c'est un calcul de leur part, je leur dis, messieurs, vous vous trompez, parce que c'est pas le but. De toute façon, ça ne marchera pas si on va dans ce sens-là. Pour que ça marche, il faut qu'on soit dans une contrariété, il faut qu'on soit dans une opposition, où, tout en restant ludique, hein, c'est pas méchant tout ça, mais il faut qu'on soit dans un contre quelque chose qui nous permette d'être efficace, sinon on perd notre efficacité. C'est un peu comme les feralgans, quoi. Si on le met dans la limonade, ça n'a pas d'intérêt.
Tu rajoutes un petit peu de bicarbonate de bonheur dessous de là-dessus.
Est-ce qu'il y a cette peur, Fabienne Kemener et Fred Touche, d'une certaine récupération de vos modes d'expression, de vos modes d'action par les politiques?
Non, parce que c'est pas possible, parce que ça nous annulerait. On peut pas, le fait de nous récupérer, ça annule. En fait, c'est des polarités, des... Ouais. Je suis pas très clair, j'avoue. Mais
moi, j'ai assez conscience de ça, notamment dans le travail d'agent de liaison de la NPU, puisqu'on travaille sur la psychanalyse des villes, donc on se frotte beaucoup avec le politique. Et on contourne ça. On n'est pas à un endroit où j'ai l'impression qu'on peut récupérer cette démarche, puisqu'à chaque fois, on va faire une pirouette, on va être dans un endroit où on ne nous attend pas. Et puis, des fois, c'est utile d'être récupéré, en fait. Ça sert à quelque chose d'être récupéré si c'est à bon escient. Donc on se laisse faire par moment, en fait, vraiment, parce que tant mieux, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours dans cette méfiance-là. Il y a des moments où on se dit, bah ouais, c'est super, on est récupéré, c'est super. Très bien, si c'est, voilà, si ça...
Vive
voilà.
La récupération.
Mais je pense que, par contre, on a une éthique de fond qui marche au radar toute seule et qui fait que de toute façon on a une telle liberté aussi dans ce qu'on fait. On n'est pas une compagnie conventionnée, subventionnée à outrance, on est sur les projets. On est vraiment très très libre dans notre démarche et ce côté artisanal fait que du coup, voilà, on est toujours un coup plus loin en fait.
Municipale, la mairie de Rouen valide la proposition de Fabienne Kemener et Fred Touche. Cette année, ils ont décidé que leur rendez-vous de la cervelle aurait pour thème le désordre. Ce soir, dans une église désacralisée, 500 personnes et un ethnologue participent à un ouragan subversif.
Les rendez-vous de la cervelle, c'est un dispositif cognitif. Qui est basé sur le principe d'une université populaire, c'est-à-dire un public, un auditeur, un détenteur du savoir, un professeur et un plaisantateur. C'est moi, c'est mon rôle. Plaisantateur étant une subtile contraction entre plaisantation et présenterie. et présenterie étant elle-même une contraction entre hommage à une messe pour autant présent et magasin de ganterie, et plaisantation étant une contraction elle-même de magasin de plaisance et plantation de tabac ou de maïs. Donc tout ça, ces mots-là sont, donnent la... Voilà, si on les prend comme ça, c'est un peu comme une... Et ça donne le mot plaisantateur. Donc le rôle est de pousser... le rôle étant de pousser le détenteur du savoir dans ses retranchements, qu'il soit philosophe, prof d'histoire, ostéothérapeute, neurobiologiste. Donc il va donner une conférence et moi, je vais le pousser tranquillement, doucement, j'y vais. Des fois, je le déstabilise. Des fois, je me fais déstabiliser aussi. Et j'essaie de l'amener au plus loin pour non pas pour me valoriser moi, évidemment, non pas pour le valoriser lui, mais pour que le public, c'est-à-dire l'auditorat, puisse se faire, avoir la connaissance qui explose en bouche dans tous ses parfums, comme un vin.
Où en étions-nous, Michaël ?
Alors maintenant, on va voir un rituel, un exemple d'un rituel où il y a apparemment un désordre et ça s'appelle la baffe ou la gifle menstruelle. C'est une tradition en fait européenne.
La quoi là tu peux remonter le micro.
C'est une tradition européenne qui s'appelle la gifle menstruelle. Et en fait, c'est un événement qui a lieu lorsque une fille a ses premières règles.
On lui met une gifle.
Elle va voir sa mère ou sa grand-mère et elle lui annonce qu'elle a ses règles. Et la mère dit « Oh ma chérie, c'est merveilleux !» et lui donne une baffe. La fille est totalement scandalisée. La mère aussi, un peu choquée de ce qu'elle fait. La fille dit « Mais pourquoi tu m'as fait ça ?» Les réponses, c'est la tradition. Ou à la rigueur, comme ça tu aurais bonne mine toute ta vie, ça te met des joues roses. Au niveau symbolique, il y a pas mal de trucs, hein, c'est-à-dire le sang qu'elle est en train de perdre par le bas, avec le gifle, il y a le sang qui vient sur les joues. Mais ce qui est vraiment difficile avec ce rituel-là, c'est qu'on ne comprend pas très bien, parce que généralement, on comprend très bien qu'est-ce que c'est qu'une baffe, on comprend très bien qu'est-ce que c'est qu'une geste d'affection, mais les deux scrunchés ensemble...
C'était étrange parce que je me suis ce soir, il y a Ludor Citric qui a amené son idée du désordre qui était tout à fait
le clown
qui était tout à fait libre, improvisé après, dans plein d'espaces, dans plein d'endroits. Moi j'ai trouvé ça super et après je me suis demandé quelle était la limite par rapport à l'intervenant pour lui quoi, dans l'élaboration, dans la construction de sa pensée. Enfin, ouais, j'ai pas encore été parler avec lui en fait là. Je sais pas trop ce qu'il a ressenti dans tout ça, comment est-ce qu'il s'est retrouvé. C'était quand même tout sauf académique ce soir. Ça n'est pas toujours à ce point-là, c'est-à-dire que souvent il y a des moments d'intervention ciblés.
Ouais, maintenant on peut violer et piller, c'est parti. Alors les pauvres, on n'a pas eu de place devant.
Bah là, justement, Michael, j'étais en train de me demander comment tu avais ressenti cette perturbation ce soir. Est-ce que c'était pas un peu trop
déconcertant? Oui.
Déconcertant.
Totalement déconcertant. Mais bon, on fait avec. Non, mais autant j'étais totalement attiré par le principe, c'est pour ça que je t'ai dit oui. Je dois dire, je m'attendais absolument pas à ça.
Mais en fait, moi non plus, c'est la première fois que la séance est à ce point perturbée.
Ah bon?
Oui.
Mais je dois dire que le fait d'avoir senti que Fred notamment, mais Cédric aussi, que c'était des pros... Ça me mettait en confiance qu'en fait, ça n'allait pas déraper à l'infini, quoi. Et du coup, je sentais qu'il y avait quand même cette sécurité-là. Et dans ce cadre-là, bon, j'essaie de faire mon truc, quoi.
Est-ce que ce n'est pas une obligation aussi de faire le show, de rentrer dans l'entertainment, le divertissement,
bien sûr, pour être sérieux?
Ouais,
mais c'est parce qu'une fois, je me suis fait un peu exploser
par comment il s'appelait notre par Paul Blancard, qui est un homme très respectable, où j'étais un petit peu dans la vanne, dans la blagounette, dans le j'essaie de montrer que je suis drôle. Il m'a explosé sur place, il m'a désintégré en me disant écoute, c'est bon quoi, c'est pour faire le clown et machin, on a vraiment pas besoin de ça, on est dans un cheminement de pensée, tout ça. Et ça m'a bien fait réfléchir. J'ai mis 10 minutes à m'en remettre. Et après, je crois que c'est un des plus beaux rendez-vous de la cervelle que nous ayons fait avec Paul Blancard. Mais effectivement, il ne faut pas du tout... Il y a un côté entertainment, oui, mais il faut toujours être dans un cheminement de réflexion, de pensée.
Fabienne, hein.
Oui, puisque ce que j'ai bien dit à Michael avant d'entrer sur le plateau, tu vois, j'ai envie de dire en scène, c'est une conférence, enfin voilà, la forme est ambiguë. Je lui ai bien dit... Ce soir, l'important, c'est le propos, c'est la conférence, c'est ce que vous avez à dire. On n'attend pas de vous quelque chose de spectaculaire en particulier, on s'en charge. Et là, pour le coup, je crois qu'on s'en est vraiment bien chargé. Voilà, pour bien aussi que lui soit à sa place de conférencier, effectivement en confiance, c'est-à-dire en faisant confiance à Fred pour être modérateur de tout ça, pour qu'on soit au service de la construction de cette idée, de cette pensée. Mais ça peut être assez déroutant pour des conférenciers comme exercice, c'est sûr, oui. Puisqu'en plus on se rencontre pour la première fois, le jour même, etc.
Est-ce qu'en 2014, c'est plus facile de faire passer des messages auprès du public en utilisant le divertissement ?
Je ne sais pas si c'est une nécessité. Nous, on l'a pensé comme un traquenard. C'est-à-dire que nous, on s'est dit qu'il y a quand même un problème d'accès à la connaissance, que les universités, c'est quand même toujours les mêmes. Même les universités populaires, il y a toujours un public quand même assez attendu et assez averti. On s'est dit, qu'est-ce qu'on construit comme forme qui va attirer des gens qui, a priori, ne seraient pas venus écouter ce type de conférence-là. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment travaillé sur Fred, qui met une humeur à ses soirées, un artiste qui vient, un cuisinier. Et tout ça crée une forme où il y a du divertissement qui va créer quelque chose d'attirant. Mais au fond, il va y avoir à chaque fois un propos, parfois compliqué, parfois... À des moments, je me suis dit, est-ce que sur le rituel, on pouvait pas aller encore plus loin? Ce soir, par exemple, là, on a parlé de la gifle, mais je pensais aussi à l'excision, je pensais aussi à des choses comme ça qui... Et je pense que ce public commence à être prêt.
Quand quelqu'un est très intéressant et que tu te permets de le couper, c'est un peu comme si les gens disaient « Chut, mais tais-toi, mais écoutons ce qu'il a à dire. » Tu vois, ça énerve le public. Il écoute quelque chose, c'est très intéressant, et toi tu interviens, tu le coupes, tu dis « tais-toi, il a envie de dire ». Donc il est plus attentif après. Qu'est-ce qu'il disait encore? C'est des trucs de salaud.
L'Agence nationale de psychanalyse urbaine contourne, détourne, mais a bien annoncé vouloir réconcilier Drancy avec ses trains. Passage obligé pour Laurent Petit, psychanalyste urbain, et son collègue Charles Althoffer, urbaniste enchanteur, à la Cité de la Muette, lieu de mémoire, lieu de vie aujourd'hui.
On est à la Cité de la Muette, construite dans les années 35. C'est un ensemble ultra moderne pour l'époque. À la base, c'était prévu pour loger des employés des transports. Les loyers étaient trop chers. Donc les tours ont été occupées par la gendarmerie, par l'armée. C'était réquisitionné par l'armée. Et puis au moment de la guerre 40, assez vite, ça a servi de camp d'internement, camp de concentration. À la libération, ça a servi de camp d'internement des collabos. Et très vite, ça a été récupéré par les HBM, Habitation Bon Marché.
Le décrire, bâtiment relativement bas, 4 étages, rez-de-chaussée plus 4 étages. Coursive au rez-de-chaussée qui distribue les escaliers, j'imagine. Et après, c'est une organisation en U, donc les bâtiments en cercle, un espace vert.
Laurent, comment est-ce qu'on aborde les gens avec un projet comique dans un endroit aussi chargé ?
On ne sait pas encore. On ne sait pas encore comment on va faire. Bon, c'est la cité de la Muette, donc lacaniquement, c'est un endroit qui nous laisse sans voix, forcément. À deux niveaux, à VOX, VOIE, avec l'histoire des trains. Il y a une notion de train, de tri, qui est assez lourde ici. Donc on va trouver. Moi, j'ai été voir l'exposition mémoriale, elle est vraiment bien faite. Il y a quelque chose qui m'a vraiment plu, parce que l'utilisation de l'humour sous l'occupation, c'était qu'il y avait des gens qui avaient des étoiles jaunes, où il était marqué breton, par exemple, dessus. Ou une étoile jaune, il était marqué auvergnat. Ils jouaient avec l'étoile jaune pour protester, quoi, par solidarité avec les juifs. Et ces gars-là avaient été repérés par les Allemands ou les collabos, je sais pas. Et ils s'étaient retrouvés avec un gros sticker « Amis des Juifs ». Ils étaient obligés de se balader avec « Amis des Juifs ». Donc ça serait amusant de faire une énorme banderole ou je sais pas, un énorme graffiti « Amis des Juifs ». Et en face, tu mettrais « Amis des Arabes »,« Amis des Gitans », enfin je sais pas, peut-être trouver quelque chose comme ça. Parce que bon, la cité de la Muette est un peu triste. Donc lui redonner des couleurs, lui redonner de la voix, je sais pas comment.
Moi j'ai l'impression que la névrose elle est pas vraiment là en fait. C'est un lieu effectivement très très chargé, mais je pense pas qu'il est là le problème de Drancy. Et puis je suis assez intimement convaincu que le lieu doit retrouver une vie, enfin comme s'il se fait là quoi. Sans perdre la mémoire. Mais en retrouvant la voix, ouais peut-être. Peut-être que dans 3 générations, Drancy peut être connu pour autre chose. En espérant que ce ne soit pas sa gare de triage qui aura pété.
On peut revenir sur l'expérience d'Alger et que vous nous décriviez un petit peu comment ça s'est passé, les différentes étapes, les problèmes rencontrés sur l'expérience d'Alger.
Déjà, l'enquête était pénible parce que c'est un théâtre marseillais qui nous avait sollicité, mais ils n'avaient pas les moyens de financer l'enquête. Et donc on a financé l'enquête nous-mêmes, ce qui déontologiquement n'est pas terrible quand on fait de la psychanalyse. Arrivé sur place, on a eu quelques rendez-vous assez amusants. D'autres qui se décommandaient parce qu'on était français et que bon, il y a quand même une partie de la population qui est toujours en relation fusionnelle avec la France, une autre qui est plus encore en colère contre nous. Il fallait assumer peut-être 150 ans, presque 200 ans de massacres en tout genre, d'horreur sans nom. Et au final, on n'était pas loin aussi du dernier traumatisme, la guerre civile en Algérie. Les gens ne sont pas encore remis, donc on était encore en plein traumatisme. Et il fallait pouvoir, quelque part, s'amuser avec ça. Pour finalement arriver à une conférence où on traversait toutes ces épreuves et on proposait des solutions. On a réussi à faire quelque chose d'assez gai, tonique et enjoué.
Enchanteur. Je préfère, plutôt que de s'amuser, je préfère essayer d'enchanter. Mais... ce qui m'a vraiment fasciné, c'est déjà d'arriver, c'est la première fois que j'arrive dans une ville qui ne veut pas être photographiée. On n'a pas le droit de prendre de photos, enfin on n'a pas le droit. C'est pas officiellement dit, mais tout le monde te conseille, ne sors pas l'appareil, ça sert à rien. Et c'est pas
c'est pas la crainte du gendarme qui va dire il faut pas. C'est apparemment toute la population, personne ne veut. On connaît tous comme ça des personnes qui supportent pas d'être prises en photo parce que attends, je veux ce profil, j'ai un bouton là ou je sais pas, je me déteste en photo. Donc, tout de suite, je me suis dit ça. Oh là, une ville qui aime pas être photographiée. Alors qu'on a tous l'image d'Alger la Blanche, la baie d'Alger. Si tu vas à Alger et que tu fais pas la photo de la baie d'Alger, que tu vas montrer à tes enfants quand ils rentrent, quoi, t'as l'air con, quoi. Donc il y avait ce premier truc-là comme ça qui a été très fort. Surtout que une de mes missions à la NPU en enquête, c'est de récolter les photos. Donc bon, c'est bien, du coup j'ai redessiné un peu, mais bon, après on s'en est sorti autrement. Parce qu'il y avait un deuxième truc, mais je sais plus ce que c'était. Ah si, oui, ça c'était... C'était drôle aussi, tu te rappelles plein de fois les rendez-vous. En général, ça se passe dans un lieu public. Les gars, ils étaient super mal à l'aise, limite à vérifier s'il n'y avait pas un micro sous le fauteuil, sous la table, à se retourner. Puis de temps en temps, on nous a dit, bon, venez, on va dans un endroit que je connais, plus privé. Puis après, là, ils se lâchaient. Mais ouais, en tout cas, moi, j'ai fini un peu parano là-bas. Au bout de 2-3 jours, je me retournais aussi dans la rue, quoi.
Et votre travail, celui de la NPU, est-ce qu'il est subversif ?
Un peu. Pas assez. Je sais pas.
Ça dépend. Je trouve que ça dépend des endroits où on est présenté. Parce que quand on est présenté dans un cadre, qu'on est présenté par une scène nationale de théâtre, c'est sûr qu'on fait partie d'un vaste catalogue de propositions. Les spectateurs sont protégés par le fait qu'ils sont en spectacle. Donc ça va être encore une fois un moment de consommation culturelle. Tandis que parfois on est programmé dans des endroits canulardesques. On est en fake dans un congrès d'urbanistes, dans un endroit où il n'y a que des hommes politiques et on est présenté comme des grands spécialistes. Où là on provoque un choc émotionnel. Où là, il n'y a pas la protection du public face à un spectacle. Donc là, on peut être un peu pertinent et subversif.
Thank you very much. On May 1st, we are releasing the beta version of Acceptable Risk, the world's first market smart risk calculator, to help you find out instantly what risks are or are not acceptable from a bottom line business perspective. Will Project X be just another skeleton in the closet? Something your company comes to regret, or will it be a golden skeleton?
Le canular fait partie du registre de la subversion. Les rois du genre sont les yes men, les béni oui oui en français, des activistes américains qui réussissent à intervenir dans les plus grandes réunions de décisionnaires partout dans le monde. Ils préparent leurs projets en secret pendant des mois, recherchent les failles des États, des grandes sociétés. Ils parviennent même à révéler sur de fausses télévisions sur Internet les écarts verbaux de certains politiques. Leur activisme civique est la référence pour Fabienne Kemener et Fred Touche.
One to climb the ladder and 11 to file the lawsuit.
Moi, j'adore leur démarche. Et j'adore le fake. J'adore quand les gens vont essayer de comprendre le faux et le vrai dans tout ça, qu'on les amène là-dedans. Et puis, je trouve que c'est fin, c'est hyper bien fait, c'est hyper bien joué. C'est ultra construit. J'aime beaucoup cette démarche-là et je la trouve vraiment pertinente. Et je pense que ouais, ça fait bouger des choses. En tout cas, ça met en lumière et en exergue des choses, vraiment. Ça démonte les mécanismes, ça les met en avant, des choses qu'on ne voit pas. Ils font remonter des choses souterraines, ils font apparaître des choses cachées, ils font ça éveille l'esprit critique. C'est fin, voilà. Moi, j'aime bien de toute façon les façons de lutter qui sont pas frontales. Voilà, qui sont...
Moi, par exemple, les Yasmen, ça m'a fait que, par exemple, quand je vois Patrick Balkany, je pense qu'il est comédien et je pense qu'il n'existe pas vraiment. Et je me dis, en fait, c'est des blagues. Ce qui fait que tout à coup, je me retrouve décalé. Et je dis, ah ouais, d'accord, allez, ils vont fort, ils vont loin. Et pour moi, à mon avis, et ça, c'est, je suis peut-être un des seuls à savoir, à mon avis, je ne suis pas sûr, mais à mon avis, c'est un comédien. C'est quelqu'un qui, ce n'est pas celui qu'on croit. Il y a un truc là-dessus, il y a quelque chose à chercher là-dedans. Et sa femme, je suis sûr qu'elle est complice.
Quand vous proposez une saison à Rouen sur le désordre, est-ce que c'est politique ?
Non, c'était cosmique au départ. C'était cosmogonique, puisqu'on était sur une réflexion sur le peuple Dogon avec le renard, qui était un symbole mythique. À l'époque, on travaillait aussi sur un projet avec un renard. Donc, on s'est dit renard, désordre, évidemment. Et en même temps, on s'est dit, paradoxalement, ça correspond aussi à un fait de société, c'est que l'époque où on le faisait, ça commençait un peu à être un peu compliqué au niveau du monde. On avait vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas trop ensemble. Par exemple, au niveau de ce qu'on appelait la crise, c'est-à-dire que des banques qui refaisaient des dividendes sur des inflations qu'il y avait eu avant, donc il y avait des subprimes, des choses comme ça. Et on se dit, tiens, c'est marrant, ça, on est, tout en parlant du renard, du désordre, de la cosmogonie, du dogon, on parle en même temps de quelque chose qui marque notre époque. Et là, les gens disaient, bravo, bingo, vous avez tout compris. Donc à partir de là, on était one again.
C'était La Subversion Comique avec Fabienne Kemener, agente de liaison, Fred Touche, plaisantateur, Laurent Petit, psychanalyste urbain, Charles Althoffer, et voilà, Charles Althoffer, urbaniste enchanteur, Camille Faucher, médiateur en chef, Michael Hausmann, ethnologue, Ludor Citric, clown. Merci à Denis Leca, les Yes Men et la ville de Drancy. Attaché de production, Christine Bernard, Eve Etienne et Alison Sina. Coordination, Irène Omelianenko. Mixage, Claire Levasseur. Prise de son, Philippe Etienne. Réalisation, Asia Khalid. Un documentaire d'Arnaud Contreras pour Sur les Dents.